Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 21h en temps universel, 22h à Paris, 23h à Goma.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. À Goma, beaucoup d'habitants commencent à manquer de nourriture. La situation est préoccupante. Les hôpitaux font face à un afflux de blessés, victimes des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise. De quoi aggraver un peu plus la situation humanitaire dans la capitale du Nord Kivu, où étaient venus se réfugier de nombreux déplacés congolais. Aux États-Unis, le gel des dépenses publiques, une mesure très responsable selon la présidence. Des prêts, bourses et subventions. Subvention fédérale dont l'administration va suspendre le versement en attendant de voir si elles sont compatibles avec les nouvelles orientations voulues par Donald Trump. En Espagne, après les inondations meurtrières dans la région de Valence il y a 3 mois, les indemnisations complètes promises par l'État tardent à arriver, ce qui ralentit la reconstruction. Neymar ne jouera plus au club saoudien d'Al Hilal. L'attaquant brésilien s'était engagé à l'été 2023 avec un contrat en or estimé à 100 millions d'euros par saison. La situation est toujours floue à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont poursuivis aujourd'hui dans la capitale du Nord Kivu. Les tirs d'artillerie et d'armes lourdes qui résonnaient encore ce matin dans la ville se sont finalement tus. Dans l'après-midi, les habitants ont donc pu sortir pour tenter de trouver des provisions. La situation humanitaire est catastrophique. Depuis le début de l'année, les combats ont déjà fait plus de 500 000 déplacés. Jérémy Lange.
Oui, 500 000 déplacés, dont 300 000 qui ont dû fuir dans la précipitation et en quelques heures seulement les camps de déplacés de Goma et des alentours, ce qui ne les a pas empêchés de se retrouver au milieu des combats, voire d'être pris délibérément pour cible. Jens Lark est le porte-parole des affaires humanitaires de l'ONU.
Des viols ont été commis par les combattants, des pillages, y compris des pillages d'entrepôts où est stockée l'aide humanitaire, ont aussi eu lieu. Les hôpitaux de Goma sont totalement débordés et n'arrivent pas à accueillir le flux des blessés.
En un jour, un hôpital de la Croix-Rouge a par exemple vu arriver autant de blessés qu'en un mois. La Croix-Rouge qui s'inquiète aussi de voir les combats se rapprocher d'un laboratoire médical particulièrement à risque. Patrick Youssef est le directeur régional pour l'Afrique du CICR.
Le CICR est encore très préoccupé par la situation au sein du laboratoire de l'Institut National de Recherche Biomédicale qui fait face à un risque de coupure d'électricité et qui pourrait engendrer des conséquences inimaginables si les souches bactériologiques dont le virus Ebola qu'il abrite venaient à se répandre.
Mais même sans la menace Ebola, le contexte est propice à la propagation d'autres maladies potentiellement mortelles. La rougeole, 115 morts l'an passé dans les deux Kivu. Le choléra, 59 morts. Et la Mpox, déclarée à nouveau urgence sanitaire de portée mondiale depuis l'été dernier. Jérémy Lange, Genève, RFI.
À Kinshasa, plusieurs ambassades ont été attaquées aujourd'hui, des manifestants en colère qui dénonçaient, je cite, la passivité de la communauté internationale face à la situation dans l'est de la RDC. Les représentations diplomatiques de la Belgique, des États-Unis, de la France, de l'Ouganda ou encore celles du Kenya ont été prises pour cible. Des attaques inacceptables pour la chef de la diplomatie européenne. Les États-Unis, de leur côté, appellent leurs ressortissants à quitter le pays. RFI, 16h et bientôt 4 minutes à Washington, Donald Trump continue à imposer sa marque sur le gouvernement fédéral. La Maison-Blanche annonce le gel d'une partie des dépenses fédérales, une grosse partie puisqu'il y a potentiellement des milliers de milliards de dollars. Le temps de réévaluer toutes ces dépenses, les précisions de Guillaume Nodin.
Ce sont les prêts et autres bourses et subventions fédérales dont l'administration Trump suspend le versement. Et cela commence dès ce mardi. Dans une note de 2 pages, le directeur intérimaire du Bureau de la gestion et du budget demande aux agences fédérales de vérifier si ces dépenses sont compatibles avec les décrets du président Trump mettant fin au programme de diversité, d'équité et d'inclusion et limitant les dépenses en matière d'énergie propre ou s'attaquant à ce qui est appelé idéologie woke à la Maison-Blanche. La décision exclut les dépenses versées directement aux individus et notamment celles des assurances santé pour les plus démunis et les retraités, Comme promis par le candidat Trump, la procureure de l'État de New York annonce une action en justice contre cette décision. Selon la note, cela pourrait porter sur 3 000 milliards de dollars sur un budget de plus de 6 000 milliards, alors que l'auteur de cette note parle d'un montant total de dépenses de 10 000 milliards. C'est aussi dans le but de sabrer dans les dépenses qu'est créé le département de l'efficacité gouvernementale confié à Elon Musk. En fin de semaine dernière déjà, le département d'État avait annoncé le gel de toute l'aide internationale hors aide humanitaire d'urgence. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Le président américain Donald Trump qui a invité aujourd'hui le premier ministre israélien à Washington mardi prochain, Benjamin Netanyahu, sera donc le premier dirigeant étranger à être invité à la Maison Blanche lors de second mandat du président Donald Trump. L'homme a affirmé par ailleurs à plusieurs reprises avoir joué un rôle clé dans l'établissement de la trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. Les États-Unis qui disent aujourd'hui soutenir la décision israélienne de couper tout lien avec l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. C'est elle qui gère notamment plusieurs écoles et des centres de santé. Une agence irremplaçable, rappelle l'ONU, tout comme de nombreux États membres. En Espagne, 3 mois après les inondations meurtrières, la région de Valence peine toujours à retrouver la normale. L'État a bien distribué des aides d'urgence, mais les indemnisations complètes tardent à arriver, tant pour les particuliers que pour les mairies. Reportage à Aldaya d'Élise Gazangel.
Il y a 3 mois, Monica Sanchez a dû s'échapper de chez elle avec ses filles en grimpant sur une échelle pour atteindre l'appartement de sa voisine. Depuis Noël, elles sont de retour dans leur maison et vivent désormais entourées de cartons et des ouvriers.
Le four vient d'une association, la machine à laver de l'église d'ici, d'Aldaya, et quelques autres choses. Presque toute l'aide vient du privé.
Ces dons lui permettent de dédier les 6 000 euros de l'aide d'urgence au paiement des ouvriers qui refont les murs de son salon dans l'attente d'une indemnisation complète.
L'expert m'a appelé par vidéo, mais je ne sais toujours pas combien il estime les dommages. J'attends toujours.
L'État a aussi promis aux mairies d'assumer 100% du coût des réparations d'infrastructures municipales. Guillermo Luján, maire d'Aldaya.
On estime à 34 millions d'euros la réparation. Et en attendant, on survit avec notre petite brigade qui répare les serrures et les portes des immeubles publics.
Cette catastrophe est d'ores et déjà la plus coûteuse de l'histoire du pays. Élise Gazangel, Aldaya, RFI.
En Serbie, après 3 mois de manifestations massives, le Premier ministre a finalement démissionné aujourd'hui. Milos Vucevic, qui avant d'être chef du gouvernement serbe a été le maire de Novi Sad. C'est dans cette ville que s'est effondré en novembre dernier le auvent d'une gare qui avait été rénovée. Depuis, la contestation dénonce la corruption qui gangrène le pays. La Commission européenne propose de taxer de nouveaux produits agricoles russes, des engrais également importés en Europe pour, je cite, affaiblir une source de revenus permettant à Moscou de financer sa guerre contre l'Ukraine. Des taxes qui viendraient s'ajouter à celles imposées au printemps qui visent notamment les céréales russes et leurs produits dérivés. Neymar quitte les rangs saoudiens pour de nouvelles aventures. Le club d'Al-Hilal et son joueur star se séparent. C'est le club qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Joseph Clément, Neymar ne laissera pas un grand souvenir de son passage à Riyad.
Un an et demi et ça sera tout. Sur le réseau social X, le club saoudien d'Al-Hilal annonce une séparation d'un accord commun avec son joueur star, tout en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance envers Neymar pour ce qu'il a apporté, je cite, tout au long de son passage au club. Une séparation polie, mais dans les faits, le joueur n'a pas particulièrement brillé. Recruté à l'été 2023 pour un contrat en or estimé à 100 millions d'euros par saison, Neymar n'aura été engagé que 7 fois sur les pelouses saoudiennes pour un total d'un but et de 3 passes décisives sous le maillot bleu du club. Un bilan plutôt maigre, même s'il faut reconnaître que Neymar a dû faire une pause en octobre 2023 en raison d'une rupture des ligaments croisés au genou gauche. Un an plus tard, il retrouver la pelouse face aux Émirats Arabes Unis en Ligue des Champions Asiatiques, mais sans convaincre. Victime de nouvelles blessures, le joueur quitte donc son club aujourd'hui. Habitué à recruter des joueurs de renom tels que Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, l'Arabie Saoudite voit le départ de Neymar comme un coup de frein dans la stratégie du pays, à peser sur la scène du football mondial. Le Royaume doit accueillir la Coupe du Monde de football en 2034. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Neymar, le moment est venu de retourner auprès de ton peuple. Voilà ce qu'a indiqué dans une vidéo le président du club brésilien de Santos, Marcelo Teixeira, qui s'est adressé au meilleur buteur de l'histoire de la